à tous et bienvenue dans La Note Originale, l'émission consacrée bien sûr aux musiques de films. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, encore une fois en compagnie de mes fidèles chroniqueurs Anaïs, Paul et Henri. Comment ça va tout le monde ?
Hello.
Salut.
Ceux qui ont pu jouer avec nous à l'énigme d'hier soir, vous savez de quel film on va parler. Et bien aujourd'hui, on va parler du film Willow. Willow, oui, Willow. Sorti en
1988.
En 88, hein, c'est ça, je crois. Et réalisé par Ron Howard, bien sûr, et composé par James Horner, qu'on a déjà étudié dans nos émissions sur Le Masque de Zorro et...
Casper.
Casper, voilà, Casper, merci. C'était Casper. Voilà. Le gentil fantôme. Pff, oh là là, aujourd'hui, on est en mode cartoon, hein. Allez,
nice,
génial.
Nice.
Avant de donner nos avis, on va bien sûr s'écouter un premier extrait.
Bah ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah bien sûr, vous êtes d'accord. Ouais. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, il s'agit du thème principal et notamment le thème de Willow. Nous voyageons dans une contrée lointaine où les humains côtoient les orques, les lutins, les fées, les trolls et autres créatures mystiques de l'univers de Willow. Nous sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM et DAB+. Vous êtes dans La Note Originale, vous venez d'écouter ce premier extrait musical du film Willow, composé par James Horner. Et sans plus attendre, on passe à un synopsis d'Anaïs, le moment de la petite rubrique où vous avez un peu plus de contexte pour pouvoir savoir de quoi parle le film si vous ne l'avez pas vu. Et sinon, vous remémorez le film.
Il y a très longtemps, dans un lointain et mystérieux village, la cruelle reine Bavmorda règne sur le peuple des Daikanis. Lorsqu'un magicien lui annonce la naissance de la princesse Elora, destinée à la détrôner, Bavmorda entre dans une rage folle. Craignant pour son pouvoir, elle fait tuer tous les nouveau-nés du pays. Elora échappe cependant in extremis au massacre et elle est recueillie par Willow, un membre de la communauté des Nelwynts, des petits hommes gentils et courageux. La communauté ne voit pas d'un bon signe de recueillir l'enfant qui pourrait attirer les foudres de la reine Bavmorda sur le village. Willow se voit chargé de ramener le bébé au sien en espérant ne pas s'attirer des ennuis. En chemin, il fait la connaissance de Mad Martigan, un aventurier qui propose de lui venir en aide.
Eh oui, Effectivement, c'est comme ça que ça commence Willow. On est quasiment dans l'introduction du film, avec cet univers un petit peu féerique et un petit peu très sympathique, hein, Willow.
Bah, ça change pas, c'est pas, ça change pas le sérieux, et puis c'est juste c'est du premier. Un premier degré, quoi. Mmh.
Ou second degré plutôt. Enfin, c'est pas ça, si ça se prend pas sérieux.
Oui, oui.
On fait un petit tour de table du coup pour donner notre avis. Paul, tu veux commencer?
Ah, je crois que tu vas pouvoir passer assez vite sur moi parce que j'ai franchement pas trop aimé. On en discutait un peu en off avec Annalise. Moi, j'ai pas. Je pense que c'est un des films qu'on a fait dans la chronique qui m'a le moins convaincu.
Ouais.
Donc je vais laisser parler les gens qui l'ont bien aimé, hein. Je pense que c'est un peu plus enrichissant.
Du coup, Anis, vas-y, t'as à peu près la même sensation. Ouais,
ouais, bah, ça t'a pas parlé. Je le déteste pas dans le sens où il y a des jolis plans, des belles images, il y a quelque chose d'intéressant, bien sûr. C'est sympathique comme tout, ça cherche à pousser l'imaginaire, ça nous ramène à l'enfance. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment pour les petits, après les certains effets.
Un côté cartoon,
c'est un peu enfantin.
Ça me dérange pas le côté enfantin, mais des fois quand c'est tiré par les cheveux, j'ai l'impression que ça prend les enfants pour des bébêtes en fait.
On l'a peut-être pas vu à la même. À la bonne période, je pense. C'est comme si tu te remates les Goonies aujourd'hui. Et encore les Goonies, c'est un peu mieux.
C'est normal. Mais après, bien sûr, il est quand même bien, c'est pas ça.
Oui, moi ça fait penser un petit peu au spin-off des Ewoks de George Lucas qui avait fait les Ewoks après
qui était de la merde.
Ouais, là pour le coup, ça c'est
déjà à l'époque.
Mais c'est très sympa. Moi, enfin, quand j'étais petit, je le regardais. Du coup, j'ai une sorte de petite nostalgie là-dessus. Mais ouais, le film, non, il est pas fou.
Avec le film narré par Dorothée.
Peut-être, ouais.
Et la chanson du film chantée par Dorothée.
Ouais.
En France.
Ouais, qu'est-ce que t'en penses du coup de Willow?
Je vais pas donner complètement mon avis, puisqu'en fait je le développe en partie, et de façon logique, vous allez comprendre dans ma chronique. Mais j'aurais juste envie de dire par contre que le film, il a quand même une petite importance à un certain point, parce que ça fait partie des premiers films, si ce n'est le premier film, qui mettait à fond à contribution les effets de morphing en fait. Faut pas oublier que c'est un film qui date de 88, et tout ce que tu vois à la fin, quand tu vois quand il se transforme en tigre, en machin, etc., ça faisait partie des premiers films qui utilisaient ça. Donc en fait, quand on n'arrête pas de parler des effets de synthèse comme on parlait avec Cameron et tout ça, ben, faut pas oublier effectivement qu'en 88, 89, ben, t'as Abyss, en 88, t'as Willow, que en 86, 87, t'as les effets de synthèse que tu as dans le générique des histoires fantastiques de Spielberg, donc la série TV. Donc en fait, l'ordinateur était arrivé quand même bien avant, c'était pas 93. 93 est une date très importante avec Jurassic Park, mais les effets spéciaux datent pas de 93, quoi, au niveau de synthèse. Donc sur des trucs comme ça, c'est assez sympa, mais ce que je trouve, donc pour rester dans le technique, moi ce qui m'a fait bloquer revisionnage du film, parce que je l'avais pas vu depuis une bonne dizaine d'années, pourtant c'est un film que j'aime beaucoup, hein, c'est un film que j'ai vu quand j'étais gosse, que j'ai vu vraiment plein de fois, mais c'est qu'il y a une vraie... Il y a un problème de balance en fait au niveau des moyens selon les passages. Tout ce qui est direction artistique dans le palais de Bav Morda, tout ça vraiment cool. T'as vraiment l'identité, t'as vraiment une démesure, une espèce de gigantisme au niveau des pièces et tout. Et dès que t'arrives dans le village d'Halloween, c'est tout pourri en fait. C'est vraiment tout pourrave. T'as l'impression que c'est une fête de l'école, quoi. Les costumes sont pas ouf. Tu vois clairement que les mecs ils ont des perruques. Des fausses moustaches.
Oui, puis ils sont tout le temps dans une sorte de petit coin, en milieu d'une forêt en fait.
Le village est tout petit.
T'as l'impression que c'est une cour de récré, quoi.
En fait, c'est comme s'il avait lu Tolkien, mais qu'il avait pourtant visé totalement à côté en fait. Alors que théoriquement, c'est des ouvrages. Il l'avait déjà prouvé avec Star Wars, tu vois. C'est une espèce de culture qu'il connaissait, qu'il comprenait. Et là, il fait ça, et effectivement, moi j'ai vraiment bloqué sur ça. Et puis pareil pour les effets spéciaux de maquillage, tu vois. Moi j'adore les effets spéciaux de Denis Perren et Phil Tippett pour cette espèce de créature qui sort du troll en fait, tu vois. Donc ça c'est fait en stop motion, et ça évidemment c'est du stop motion, mais aujourd'hui ça peut paraître vieilli pour certaines personnes, mais moi je trouve que ça garde une certaine poésie, une certaine beauté. Ces types d'effets, je trouve que ça marche bien. Et dès que t'es dans les maquillages par exemple des trolls ou des espèces de carcasses qui sont mises sur des chiens au début pour faire les espèces de bestioles, tu vois, qui poursuivent la servante avec Laura Dannan au début, ça tout pourri, ça fait vraiment ça la fait tech, les maquillages sont pas
méga
ouf. Et pourtant, c'est une méga production, c'est une production qui a coûté des thunes à l'époque, hein, tu vois. Et c'est ça, moi, qui me fait un peu bloquer avec le recul, c'est que t'as des films que tu revois, tu vois que c'est des films qui sont d'un autre temps au niveau des effets spéciaux, j'ai pas envie de dire dépassé, tu vois que c'est des films qui sont d'un autre temps au niveau des effets spéciaux, mais où ça marche très bien, et là, par contre, vraiment, j'ai eu blocage en revoyant le truc, en me disant, putain, la vache, ça, c'est super bien. Pourquoi dans ce cas-là, ça c'est tout pourri quoi. T'as l'impression qu'ils ont utilisé toutes les thunes et que sans avoir tourné ça, d'un seul coup ils se sont dit ah merde en fait, il nous reste plus de $10 pour pouvoir faire toutes les séquences là-dedans. Mm. Bon, bah c'est pas grave, on va aller prendre du crin de cheval et on va leur foutre sur la gueule et puis là il me reste un manche à balai. Ouais. T'as vraiment des trucs très laids en fait sur ce point de vue-là et c'est assez bloquant.
T'as l'impression
qu'il y a une mauvaise interprétation de Tolkien.
Ouais.
Bon, en tout cas, au niveau de la musique ça fonctionne, c'est assez sympathique, c'est assez dynamique. Mais c'est plus que ça. Et du coup, pour le coup, là, on est au-dessus. Là, il y a un ordre de grandeur qui fonctionne assez bien. Donc, Annie, je te laisse la parole pour nous parler de James Horner, qu'on avait déjà vu dans nos émissions sur Le Masque de Zorro et Casper. Donc, une rapide biographie de James Horner. Je t'en prie.
Alors, James Horner a débuté sa carrière comme compositeur pour des films de série Z, tels que Les Mercenaires de l'espace ou Chrome. Il rencontre Ron Howard en 1985 et compose les musiques de Cocoon et Cocoon, Le Retour, puis Willow en 1988. Il s'aventure à une collaboration avec James Cameron en 1986 sur Alien, Le Retour. Parallèlement, il s'exerce à d'autres genres en mettant en musique le film de Jean-Jacques Hano, Le Nom de la Rose, ainsi que quelques films d'action comme Commando ou encore Another 48 Hours et Red Heat.
Double détente.
Ouais. Toujours avec cette même envie de parcourir tous les genres, James Horner compose Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles pour les réalisateurs Dan Bluth et Gary Goldman, les vétérans du studio d'animation de la 20th Century Fox. Il composera aussi pour eux la BO de Fievel et Le Nouveau Monde et Le Fievel au Far West quelques années plus tard. James Horner fait une nouvelle tentative dans le film d'action en 1992 et en 1994 avec la série des Jack Ryan, réalisée par Philip Noyce, Jeu de guerre et danger immédiat. C'est en 1994 qu'il compose une partition qui mettra en place son style pour les années suivantes, Légende d'automne pour Edward Zwick. Il perfectionne ce style l'année suivante sur Braveheart de Mel Gibson, qui deviendra rapidement une BO culte tant Horner maîtrise l'émotion à travers une orchestration efficace et subtile. Toujours en 1995, il renoue avec Ron Howard sur Apollo 13. Après avoir écrit quelques musiques de comédie comme Casper ou Jumanji en 1997, il compose la BO de Titanic qui connaîtra un succès planétaire. Jamais une musique de film n'avait autant été vendue et popularisée. Deep Impact, Mon ami Joey, L'homme bicentenaire, puis Le Grinch et En pleine tempête en 2000 également. En 2002, il retrouve son ami Ron Howard pour Un homme d'exception. Après ce passage à vide de plusieurs années, James Horner refait surface avec Flight Plan et La Légende de Zorro la même année. Il reprend les airs latino du premier opus.
Et les deux sont pas terribles.
Voilà.
Ouais, c'est vrai.
En 2006, il écrit la musique du film Terrence Malick's Le Nouveau Monde, puis c'est les retrouvailles avec Mel Gibson début 2007 avec Apocalypto.
Ça, c'était bien.
Grave. Et le film est monstrueux.
Carrément. James Horner se construit une œuvre lente, mais sûre, efficace et fragile à la fois. Une œuvre pleine de paradoxes de la part d'un compositeur qui, même s'il fait parfois du recyclage, arrive toujours à faire passer quelque chose dans sa musique, et même à travers les films pour lesquels il apporte sa contribution. Autant d'œuvres qui démontrent qu'Horner est réellement un compositeur doué et maître de son art, malgré les limites qu'il s'en est lui-même imposées de manière involontaire.
Oui, était malheureusement, nous a quittés. Donc oui, mais bien sûr, on aura l'occasion de le détailler tout à l'heure avec la chronique d'Henri. Mais James Horner, énorme compositeur, on le voit. Je m'ai fait réaliser dans la biographie à quel point il a fait de collaborations avec Ron Howard. Je m'en souvenais, je savais qu'il avait fait beaucoup de films de Ron Howard, mais c'est vraiment pour le coup, énormément, quasiment de tous ses films.
Okay.
Et je me souvenais plus. Mais effectivement, ouais, compositeur, j'aime beaucoup son utilisation qui met quasiment dans une BO ou deux de la trompette.
C'est son death motif.
Ouais, c'est son petit motif qui met quasiment. On l'entend dans Willow. Hein. Dès le début.
Jusqu'à plus soif.
Ouais. On l'entend dans Zorro, on l'entend dans Avatar, on l'entend dans...
en pleine tempête.
En pleine tempête, on l'entend dans
plein de trucs. Enfin, dans plein, et ouais. C'est pas nécessairement la trompette, en fait, de temps en temps. Dans Avatar, il y a aussi. Ouais. Et...
C'est souvent pour des leitmotivs accrochés aux méchants.
C'est le death motif.
Ouais.
Ça peut être utilisé soit pour annoncer la mort, dans le sens truc dramatique, soit au contraire pour avoir un truc très, très agressif et effectivement placé pour l'antagoniste.
Ouais. C'est très utilisé, je trouve, comme leitmotiv dans Zoro, je trouve.
Oui, aussi.
Ouais.
Et ce serait, si je me trompe pas, c'est à revérifier, je vais peut-être dire une connerie, ce serait un truc qu'il aurait repris Drachmaninoff, si je me trompe pas.
Ah ouais, ouais. Ah, ouais
je crois que c'est...
C'est bon à savoir.
C'est à revérifier, hein, mais...
Bon, super, merci beaucoup Anaïs pour ce synopsis et cette biographie. On s'écoute un second extrait. Il s'agit du titre Willow the Sorcerer, donc Willow le sorcier, où l'on peut entendre du coup cette musique tribale qu'on entend dans le village. Folklorique, on va dire.
Folklorique.
Ouais. Plus folklorique du village de Willow, une musique joyeuse et festive qui nous plonge dans cette sympathique communauté du village de Willow. Nous sommes de retour sur Apple Radio 99.0 FM et DAB+. Vous êtes dans la note originale et vous venez d'écouter ce second extrait musical du film Willow composé par James Horner. Et on passe tout de suite aux anecdotes de Paul. On n'a pas le temps.
Alors, c'est parti, il y a trois anecdotes. Donc,
voilà.
On va aller du plus court au plus long. On va commencer par les figurants du village Nelwyn, puisqu'on en a cité un tout à l'heure, mais il y en a un autre. De renom, puisqu'il s'agit de Kenny Baker.
Oui, qui était...
R2-D2 dans Star Wars.
Je l'ai grillé plusieurs fois. Je l'ai grillé, il est dans les séquences de village au tout début. Et je me demande même s'il n'était pas également dans Bandy de Terry Gilliam. Ça sera vérifié.
Je dirais peut-être à la prochaine émission, si j'y pense. Mais en tout cas, voilà, donc il y a R2-D2 qui fait partie de Willow, en quelque sorte. Ma deuxième petite anecdote, c'est...
Il est dans le studio, regarde, je sais pas ce qu'il fait.
Ça ne fait pas partie du monde féerique, mais c'est les aléas de tournage. Assez fréquemment, l'équipe de prod devait utiliser une lance à eau pour séparer les porcs qui peuplaient le château puisque autour du château il y a beaucoup de porcs.
D'accord.
Et oui, en fait, les porcs passaient leur vie à s'accoupler entre eux, mais au point où ils se retrouvaient très vite avec beaucoup de portée. Et du coup, ils devaient les arroser à la lance à eau pour qu'ils arrêtent de s'accoupler sans cesse, quoi, parce qu'ils passaient leur vie à s'accoupler, c'était impossible de filmer. Au-delà du fait qu'ils se retrouvaient avec des porcinets rapidement, quoi. Parce que une porc femelle peut engendrer genre 8 porcs d'un
porcine.
Coup. Mmh. Une porcine, je cherche porcine. Le mot.
Ah, quand même.
Voilà.
Belle anecdote.
C'est mignon.
Et pour conclure, visiblement, il n'y avait pas que les porcs qu'il fallait refroidir, puisque le film a une espèce de réputation d'agence matrimoniale. Beaucoup de gens se sont mis ensemble sur le tournage, notamment Val Kilmer et Joanne Whalley,
qui est devenu Joanne Whalley Kilmer par la suite.
Voilà, et au final, ils vont divorcer un petit peu plus tard, mais ils se sont mis ensemble pendant le film et ils sont devenus mari et femme pendant le film, puisqu'ils se sont mariés pendant le tournage.
Oui, là, je pense que c'était rapide.
Ouais, plutôt. Et il y a aussi l'acteur Warwick Davis, dont on a parlé tout à l'heure, qui a rencontré sa future épouse parmi les figurants des villageois de Halloween.
Excellent.
Voilà.
Oh, cool.
Donc comme quoi, c'était propice, visiblement.
Et d'ailleurs aussi, la série Willow, ils vont refaire une série qui va ressortir sur Disney Plus bientôt.
Qui serait une suite.
D'accord, ok.
Voilà. Mmh. Donc Warwick Davis va revenir, ça a été annoncé l'année dernière.
Il y a un pseudo-trailer qui a été fait... Ouais. Où il présente en fait
son casting.
Je sais pas comment prendre, mais il présente le casting.
En rigolant. Merci beaucoup, Paul, pour ces anecdotes. On passe sans plus attendre à l'analyse d'Henri sur la musique de James Horner.
Bah oui.
Bah ouais.
Bah ouais. Bah ouais. Allez, hop, vas-y, on met son armure, on prend sa plus belle épée, sa plus belle baguette magique, et puis on monte à cheval, et puis hop, on est parti, youhou. Ouais, bon, ok, le youhou de la fin, ça fait un peu plus western, mais m'en fous d'abord. Alors, Willow, ça va être un gros morceau qui va partir un peu dans plein de directions, mais il le faut, Bathmore d'Umberto. J'ai pas réussi à le dire.
D'accord.
Je l'ai répété dans ma tête, j'y arrive pas. Je fais très bien la dramatisation, je sais. Willow, en gros, bien que le film reste culte pour toute une génération, ou d'autres que celle-là, d'ailleurs, je m'y inclus un petit peu, j'avoue qu'au revisionnage, fort longtemps plus tard après, bah c'est quand même assez décousu sur le plan tonal et sur le point de vue scénaristique. Lucas prenant régulièrement les pieds dans les brownies, je parle pas des gâteaux, je parle des petits lutins qu'on voit dans le film, se prend les pieds également dedans, d'ailleurs, car les persos ne servent à rien, si ce n'est pour amadouer les enfants, comme un certain Jar Jar Binks ou les Ewoks que tu évoquais juste avant. Willow étant d'ailleurs clairement en fait une extension du retour du Jedi, car les Elwins ou Nelwins étant ni plus ni moins que des Ewoks, sachant que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des clins d'œil et notamment le casting est similaire. Et quand je parle des clins d'œil, c'est également la séquence où ils s'entraînent et qu'ils décollent pour se retrouver sur un truc. C'est un gag que tu as déjà dans le film et probablement déjà avec Warwick Davis dans le retour du Jedi.
Ouais.
Eamon Martigan, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un solo médiéval. Hein. Quand tu regardes bien, c'est exactement les mêmes caractéristiques et les mêmes caractérisations des personnages. Et pas que ça, avec Bav Morda qui est l'empereur, enfin, il y a plein de parallèles qui sont à faire comme ça. Parmi les autres problèmes, bah, c'est qu'on aura un max de références, comme à l'accoutumée de George Lucas, aux mythes célèbres ou aux grandes sagas. Donc on aura Tolkien, on aura également Elora Danan dans le Lando, dans la rivière et bien plus, égale Moïse sauvé des eaux. Bav Morda, elle est peur, vous êtes tous des peurs, égale Circé et ses porcs. Donc je parle bien de Circé, de la mythologie grecque, et non pas de Game of Thrones, hein, on est d'accord. Et le tout n'amenant finalement pas grand-chose, si ce n'est d'avoir été placé là. Et on a également un ton qui va osciller entre fantasy, magie noire, moments vraiment dark, et humour parfois complètement teubé, en fait. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Anaïs, par rapport au côté hyper enfantin. Alors, je dis bien, j'aime quand même bien le film, mais... faut savoir prendre un petit peu de recul, ce que je vais faire également avec le score. Le score, d'ailleurs, on y vient. Si j'expliquais tout ça avant, c'est surtout pour faire comprendre le brio d'Horner et l'importance protéiforme de sa partition et de sa narration. Alors, on va crever l'abcès direct. Oui, la BO est truffée d'archétypes horneriens, dont le fameux death motif dont on parlait avant, le tadadam, je le fais très bien, et un de ces motifs d'action qu'on va retrouver autant dans Titanic que... pas dans plein de films, en fait, qui va faire juste après ou juste avant, et qui était déjà également présent dans les prods Corman, ou dans Wolfen, ou encore Aliens, etc., etc. Oui, la BO est un maelstrom d'énormes influences, dont Stravinsky, Eric Wolfgang Korngold, Ligeti, Penderecki, Britten, Mozart, Prokofiev, la musique folklorique, etc., etc. Oui, et re-oui, ces deux thèmes principaux sont empruntés, certains diront volés, D'un côté, à la symphonie rhénane de Schumann, pour le thème héroïque, donc celui de Martigan et celui un peu de Willow, quand le thème d'Elora Danan serait une reprise quasi note pour note du Mirstenkel et des voix bulgares. Donc oui, 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 et encore oui, je le reconnais, voilà, vous êtes content, j'ai dit du mal de Horner, est-ce que vous êtes voilà. content, ça va, c'est bon, on peut passer à autre chose. Maintenant, oui. parlons un peu plus sérieusement. Bien que tous ces emprunts soient indéniables, avérés et connus désormais, est-ce que cela a empêché Oscar Danan de devenir l'un des plus mémorables de toute sa carrière ? Est-ce que ça l'a empêché d'en devenir une des clés de voûte de son style pour la décennie suivante ? Et est-ce que, enfin, ça l'a empêché d'être l'un des plus fabuleux scores de fantasy de l'histoire du cinéma ? Eh ben non ! Eh ben non ! Je vous ai pas laissé le temps de répondre, je vous le dis, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je disais en long préambule que, Lucas, à force de vouloir contenter tous les publics, de truffer ses récits de rêves multiples et de changer le ton de son récit d'une scène à l'autre, finissait par un poil le saborder, complètement même. Eh bien, Horner, lui, va jouer exactement la même carte, à savoir mettre à l'honneur tout un bagage musicologique parfois disparate, de par leur courant ou époque, voire en changeant les moods et dynamiques, jonglant entre merveilleux, chevaleresque épique et claquant, humour et envolé swashbuckleresque, mais aussi agressivité atonale, musique folklorique et festive, touche romanesque et romantique, etc., 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 etc. Et ce, à contrario de Tonton Georges, sans aucune fausse note, car réussissant l'exploit de maintenir un cap stylistique absolument dingue et ébouriffant de cohérence d'un bout à l'autre de sa partition. C'est quand même une très très longue phrase. Oui. Donc, j'aimerais, avant de poursuivre, vous poser une petite question, chers compagnons et troubadours de route. Hormis le côté galvanisant et héroïque fantasy, l'envie de faire « ting ting tiens, invadiblement, des gagnes avec l'épée », etc. qu'est-ce que vous évoque la musique, notamment quand vous entendez le thème héroïque de Man Martigan ? Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Moi, ça m'évoque la musique de Guillaume Tell.
Ah oui.
Ouais, une épopée chevaleresque.
Bah en fait, à moins que tu veuilles dire un mot Anaïs, parce que tu avais l'air de chercher en fait.
Ouais, je cherchais, mais après vous m'avez...
On a coupé la chic.
Bah vas-y, je t'en prie.
Non, chevaleresque, ouais. Chevaleresque, héroïque.
Ouais. Alors, c'est pas que exactement ça où je voulais en venir, mais tout à fait. De toute façon, tout ce que vous avez dit, vous avez droit à un bon point. Alors, pour ma part, évidemment, avec le choix de ce morceau, c'était d'autant plus probant et évident, mais je pense que de l'œuvre d'Horner, c'est une des BO qui va le plus allier l'aspect musique de film et surtout l'aspect et héritage de la musique classique. Parce qu'il y a réellement une fibre, une fougue et une construction thématique digne des grandes œuvres classiques ou contemporaines, type Wagner, Stravinsky, etc. Son amour pour toute l'histoire classique musicale transparaît comme jamais ici. Alors oui, de par les mêmes éléments, c'est une de ses BO les plus controversées, pour tout ce que j'ai dit juste avant. Beaucoup voyant juste du plagiat éhonté, mais à l'instar de Kubrick, Horner trouvait que le répertoire classique était d'une telle richesse qu'il fallait impérativement ne pas le laisser mourir et continuer à le faire perdurer. Donc Horner, ici, va choisir tout simplement l'option de l'emprunt, non caché en plus, parce qu'il s'en est jamais caché, en fait, de ce genre de choses. Alors... Certains me diront que je me contredis parce que c'est exactement le même genre de démarche qui m'agaçait un peu chez Zimmer avec Interstellar dont je parlais la dernière fois. Et d'ailleurs, je me permets de faire un petit erratum au passage puisque Zimmer s'inspirait, comme je disais, probablement de Horner dans Le Petit Dinosaure qui lui-même s'inspirait non pas de Prokofiev mais de Béla Bartók et de son œuvre Le Prince de Bois. Vous pouvez écouter, c'est assez flagrant. Ce qui est dommage en fait avec Zimmer, je sais, j'utilise encore le point Zimmer, c'est que quand il cite... Philip Glass avec Interstellar, ou Morricone avec Pirates des Caraïbes, ou Karl Orff avec True Romance, ou Mozart avec Le Roi Lion, ou Goldsmith avec L'Aventure Intérieure, bah c'est en fait, ça s'arrête là. Il n'en fait rien, il ne se l'approprie pas, il n'en renouvelle pas l'essence, il le cite, et ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin. Horner, dans le cas de Willow, même si le menu des références est peut-être un poil trop copieux, il réinvente les emprunts pour les faire revivre dans une nouvelle thématique, une nouvelle dynamique, comme Rota avec ses auto-emprunts pour Le Parrain. Sauf que là, en fait, voilà surtout la façon dont il va le faire. Willow, en fait, c'est un peu la quintessence et la naissance également de différents courants de la carrière d'Horner, où son bagage classique va complètement exploser, réinvoquant les expérimentations d'un brainstorm, ou alors le souffle épique incroyablement galvanisant, chevaleresque, pétaradant, et surtout mélodique et émotionnel d'un Krull, ou de ses deux opus pour Star Trek, auxquels il est juste impossible de refuser l'invitation au voyage musical et symphonique. Et puis, il faut également souligner le travail absolument prodigieux des orchestrations de Greg McRitchie, et je pense vraiment que Horner a jamais aussi bien sonné que quand c'était lui qui s'occupait de ses orchestrations, avant qu'il décède, et surtout la claque monumentale et de la prise de son, et du mixage, et du mastering, et surtout l'interprétation hallucinante du London Symphony Orchestra, qui joue dessus. Parce que, enfin, en gros, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais ça sonne, quoi. C'est une, je pense que c'est vraiment une des BO, je trouve que ça sonne à ce point-là, en fait, ça claque, ça te défonce la tête, quoi. Quand t'écoutes ça, ça a vraiment une charge complètement dingue. Et donc, clairement, pour moi, ici, Horner sert le film et limite, à lui seul, il lui donne une vraie cohérence, tout en offrant de redécouvrir des choses, des œuvres, en fait. Donc, bref, malgré toutes les controverses, c'est un véritable travail d'orfèvre. Ça tue. J'adore. Je love. Du coup, ça me met de bonne humeur. Vous n'êtes pas des crottes de troll, du coup. Et je fais des cœurs avec les mains. Et je finirai par « Tu nous manques fort, fort, fortement, James ».
Et oui, James Horner, il nous manque dans le paysage de la musique de film, hein, de musique de film, de BO, parce que il avait cette intelligence. Il sait, en fait, ce qui est bien avec Horner, c'est que c'est comme ce que disait Anaïs, en fait, c'est qu'il sait lui-même en fait ce qu'il fait, et il sait très bien qu'il se répète, il sait très bien qu'il va s'inspirer ou qu'il va reprendre telle ou telle chose, mais ouais. En fait, il a l'intelligence justement de se dire je veux à la fois rendre hommage et je veux créer un rendu sonore qui soit à la hauteur de ce que moi en fait j'idolâtre et j'admire en tant que auditeur. Donc ouais, non, oui, c'est effectivement James Horner qui a eu une carrière complètement incroyable et sur Willow ça s'entend. C'est d'ailleurs un des gros points forts du film, hein. C'est-à-dire c'est cet appel à l'aventure qui se ressent à chaque fois qu'il y a la musique. Merci beaucoup à vous pour vos chroniques tout simplement. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez retrouver cette émission si vous ne l'êtes pas en train de l'écouter sur les réseaux, sur les plateformes, hein, Paul.
Spotify, Mixcloud, Apple Podcast.
Oui.
Et vous remarquerez que c'est toujours dans le même ordre, mais la prochaine fois je reviens avec un ordre différent.
Oui. Il faut innover, il faut changer.
Hein. Sinon, les gens vont croire que c'est un message préenregistré.
C'est vrai.
N'oubliez pas de participer au petit jeu question.
Tous les mardis soir.
Petite énigme le mardi soir. On fait un rébus et vous devinez ainsi le film.
Oui, une énigme.
Et venez. Ouais. Oui, une énigme. Donc, ouais. N'hésitez pas, venez nombreux. Voilà.
Okay, bon, okay. On vous souhaite une bonne journée à tous.
On va gérer Henri et on vous souhaite une bonne journée.
Voilà, on vous retrouve la semaine prochaine. Et. Pour finir notre slogan,
n'oubliez pas
d'écouter des films
et des BO. Au revoir.
Voilà.
Moi aussi.